citizens of America are now joined in a great national effort to rebuild our country and restore its promise for all of our people.
7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, la résistance anti-Trump dans les campus des universités américaines. Depuis l'élection du nouveau président américain, les facs sont en ébullition pour trois raisons. D'abord, les lois anti-immigration. Elles inquiètent les campus qui se nourrissent des talents étrangers. Donald Trump à la Maison-Blanche, c'est également, aux yeux de la communauté enseignante, un mépris du savoir, du débat, des faits historiques, scientifiques. Et puis, il y a les menaces directes qui pèse sur les financements des universités publiques d'État. Alors pourquoi le monde universitaire est-il pris pour cible? Quelles conséquences pour les étudiants et le corps enseignant? Comment s'organise aussi la résistance sur les campus et peut-elle s'étendre à l'échelle nationale? États-Unis, les campus en résistance, c'est un reportage à deux micros de Cerise Maréchaux et Charlie Dupio sur 5 campus dans 3 États des États-Unis. Charlie Dupio, bonjour.
Bonjour.
Vous avez enquêté en Californie.
État fermement démocrate et bastion historique de résistance universitaire, notamment pendant la guerre du Vietnam.
Cerise Maréchaux, vous étiez dans l'Illinois et au Texas.
Oui, le Texas, immense État américain, frontalier avec le Mexique, où vivent près d'une personne sans papier sur 5.
Et parmi eux, Cerise, de très nombreux étudiants.
Comme Daniel Barrera, un jeune Mexicain de 19 ans. Il est inscrit en première année d'ingénierie du pétrole à l'université du Texas à Austin. Il est sans papier. Il paye ses études en partie grâce à des bourses, car c'est possible aux USA, mais il passe aussi ses étés à couper de l'aluminium dans un entrepôt anonyme, un boulot de clandestin, comme il dit, car son statut ne l'autorise pas à travailler.
I'm originally from Juarez, Mexico.
Je viens de Juarez, au Mexique, à la frontière de l'autre côté d'El Paso, au Texas.
Quand es-tu arrivé aux États-Unis?
When I was 12 years old, 2010.
À 12 ans, en 2010, j'ai suivi ma mère. La ville devenait vraiment très violente. Des kidnappings, des gangs, de la corruption, de l'extorsion. Ma mère a été agressée 3 fois en très peu de temps. Donc on est venu ici avec un visa touriste, sauf qu'on n'est jamais reparti.
Donc Daniel, tu es en première année à l'Université du Texas à Austin, l'une des plus grandes universités publiques des États-Unis.
I'm glad that I'm in UT. It's a really welcoming university.
Je suis content d'être ici. C'est très accueillant. Les profs et l'administration, ils nous ont dit qu'ils nous soutiennent, même si on est sans papier. Ma plus grande peur en tant qu'étudiant sans papier, c'est d'être expulsé du pays. J'essaie de me concentrer sur mes études et mes examens. Il faut vraiment que je décroche mon diplôme.
Et justement, arrives-tu à bien te concentrer?
Je ne sais pas si ça affecte mes notes, mais ça me stresse énormément. Je me souviens, le soir de l'élection, j'ai craqué. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ce type, Donald Trump, c'est le pire qui pouvait nous arriver. Ça affecte ma vie sociale. Même à mes amis, je ne peux pas dire que je suis sans papier. Je vais vraiment devoir faire plus attention à qui je parle. Surtout cette année. Depuis l'élection, j'ai entendu beaucoup de commentaires autour de moi. Vraiment inquiétant. Je me souviens un jour, je sortais d'un cours de maths et il y avait des types là qui regardaient autour d'eux. Ils ont dit « Oh, j'ai hâte qu'il se fasse expulser ». C'est vraiment dur à entendre. Évidemment, je ne lui ai plus adressé la parole. Parfois, je m'effondre. Et le pire, c'est qu'on est pile en face du Capitole. Chaque matin, dès que je me réveille, je vois le Capitole par ma fenêtre. C'est là que siègent les sénateurs et les députés du Texas.
Et c'est au Capitole que sont votées des lois anti-immigration très sévères au Texas.
Par exemple, aujourd'hui, il va y avoir un vote sur SB4. Et cette loi vise directement les villes et les campus sanctuaires qui défendent les sans-papiers. La victoire de Donald Trump avec sa rhétorique raciste, ça a décomplexé les élus républicains les plus à droite, qui ont la voix libre pour proposer des lois discriminantes. J'ai vraiment peur.
La conséquence principale de cette loi SB4, c'est une obligation pour la police locale de coopérer avec les agents de contrôle de l'immigration. Et cette obligation concerne également la police des campus, une police universitaire spécifique aux États-Unis.
Yes, as long as you did not commit a felony.
Oui. Avant, si on n'avait commis aucun délit, la police n'avait pas le droit de nous demander nos papiers. Mais maintenant, avec cette loi, ils auront le droit sur une simple suspicion, même si on n'est pas arrêté.
Donc ils peuvent discriminer des personnes au faciès.
Regardless of how much faith you have in your police department, there's always going to be a racial incident.
Oui. Et malgré la confiance qu'on peut avoir en la police, ça laisse beaucoup de marge pour des incidents racistes. Cette loi, en gros, elle transforme les policiers en agents fédéraux de l'immigration. Ce n'est pas leur boulot. Leur boulot, c'est de s'assurer que le campus est un lieu sûr, sûr pour tout le monde. Mais moi, c'est clair que je ne vais plus me sentir autant en sécurité qu'avant.
Est-ce que ces policiers universitaires portent des uniformes ?
Yes. You can identify them.
Oui, on peut les identifier.
Tu penses que tu vas essayer de te cacher quand tu aperçois des policiers sur le campus?
I definitely wouldn't hide. That's not my character.
Me cacher? Alors là, non. Ce n'est pas dans mon caractère. Mais je ferai plus attention. Je ne sortirai plus le soir. Le soir, on a forcément l'air plus suspect.
It has happened to me before, like I'm walking to get somewhere to eat here in the street.
Ça m'est déjà arrivé. Je marchais un soir sur le campus et un policier a ralenti son véhicule en passant à côté de moi. J'imagine pour vérifier que je ne faisais rien de mal. Sauf que maintenant, si je me balade un soir et que j'ai l'air louche, tout simplement parce que je porte un sac à dos, ils peuvent me demander « Où est ton permis de conduire ?» Moi, je réponds « J'en ai pas. Et pourquoi tu n'as pas de permis de conduire ?» etc., etc. Et les questions continuent et je vais devoir avouer que je suis un immigrant sans papier. Et ils vont m'expulser. Je pourrais être expulsé pour un rien. Et ça, ça me fait vraiment peur. J'espère que cette loi ne va pas passer.
Mauvaise nouvelle pour Daniel, cette loi a bien été votée au niveau de l'État du Texas, elle rentrera en application à la prochaine rentrée universitaire. Cerise, donc cet étudiant est directement menacé?
Alors il y a deux catégories d'étudiants sans papier, ceux qui n'ont aucune protection, comme Daniel, et une catégorie plus chanceuse, qui représente plus de 750 000 étudiants étrangers. Eux bénéficient d'un programme créé par Barack Obama, qui protège temporairement les jeunes arrivés illégalement aux USA quand ils étaient mineurs, s'ils sont arrivés avant 2010. Ils ont le droit d'avoir un numéro de sécurité sociale, leur permis de conduire et le droit de travailler.
Pour l'instant, Donald Trump n'a pas touché officiellement à ce fameux programme mené par Barack Obama.
Et c'est presque étonnant car pendant sa campagne, Trump a clamé haut et fort qu'il allait s'en débarrasser. Mais il faut dire qu'il y a une très forte mobilisation sur le sort des étrangers sans papier.
Alors là, on entend des étudiants chanter un appel à continuer de protéger les étrangers sans papier. Parmi les cibles de Trump, il y a aussi des étudiants musulmans qui, eux, sont tout à fait légaux, Charlie Dupiau.
Oui, j'ai rencontré une étudiante qui a été prise pour cible par le Muslim Ban, ce décret anti-immigration qui a été promulgué par Trump une semaine après son investiture. Décret qui interdisait l'entrée sur le territoire à des ressortissants de 7 pays musulmans, dont l'Iran, le Soudan et le Yémen. Il a été suspendu dans les deux moutures qu'a voulu faire passer Donald Trump par deux juges différents, mais son esprit continue de planer et de hanter les étudiants concernés, comme Adil Al-Mouafak, 21 ans, yéménite, qui étudie les sciences politiques à Stanford, dans la Silicon Valley, à l'étroit, dans sa chambre d'étudiante.
This is my bed, my desk, my laptop.
Voici mon lit, mon bureau, mon ordinateur et tout le reste. Je partage ma chambre avec une colocataire. Elle n'est pas là en ce moment. Elle est partie pour les vacances de printemps.
Vous n'êtes pas partie en vacances ?
Yeah, I'm not able to leave the country right now.
Non, je ne peux pas quitter le pays maintenant à cause du décret anti-migratoire. Les choses ne sont pas claires pour le moment. Si je quitte le pays, il y a de fortes chances que je ne puisse pas revenir. On dispose à Stanford d'un centre pour les étudiants internationaux. Et dans ce centre, ils nous conseillent de ne pas voyager hors du territoire américain jusqu'à ce que la situation soit résolue. Je suis arrivée ici en septembre dernier, en septembre 2016.
Comment vous avez vécu l'annonce de ce travel ban, cette interdiction d'entrer sur le territoire américain pour les ressortissants de 7 pays musulmans ?
Au moment où j'ai lu la nouvelle dans un article, j'étais en classe. Le cours allait commencer. J'ai vérifié l'information et je n'y ai pas cru au début, parce qu'on est aux États-Unis et on ne s'attend pas à lire ce genre de nouvelles ici, dans un pays attaché à la démocratie et aux libertés. En ce moment, mes parents ne sont pas au Yémen. Ils ont dû émigrer en Égypte à cause de la guerre. Parce que mon père est diabétique, il a besoin d'insuline et il ne peut pas en obtenir facilement au Yémen, à cause d'une pénurie de médicaments due au blocus. Mes frères, par contre, sont encore là-bas.
Et vous, vous avez décidé de partir aux États-Unis ?
Oui, j'ai toujours voulu étudier à l'étranger, depuis que je suis petite. Et le système éducatif au Yémen reste fragile, surtout ces dernières années, avec la guerre qui a éclaté. De nombreuses universités ont fermé, d'autres ont été détruites, alors j'ai postulé à une bourse d'études pour les États-Unis. J'ai dû aller jusqu'en Malaisie pour demander un visa américain, car l'ambassade américaine au Yémen est fermée à cause de la guerre. Je me suis mariée 7 mois avant de venir jusqu'ici. Mon mari est artiste graffeur au Yémen.
Depuis combien de temps vous n'avez pas vu votre mari ?
Depuis que je suis partie demander mon visa en Malaisie, en juillet. Nous avions prévu qu'il viendrait me rendre visite et puis je pensais revenir chez moi cet été car j'aimerais le revoir et revoir ma famille. Nous ne savons pas ce qui va se passer, car comme le décret a été annoncé sans préavis, sans que nous en soyons avertis, nous ne savons pas ce qui peut arriver dans le futur, ce qui peut se décider au sein de la Maison Blanche et comment cela va affecter nos vies. Comme si nous étions laissés dans l'obscurité. C'est pourquoi nous travaillons toujours sur le sujet, avec l'action en justice, menée à l'initiative de l'Union américaine des libertés civiles.
Justement, vous avez porté plainte avec d'autres étudiants contre cette mesure et contre l'administration de Trump. Comment vous en est venue l'idée ?
J'ai été contactée par cette association, l'Union américaine des libertés civiles. On m'a demandé si je voulais être l'une des plaignantes pour cette action en justice. Et j'ai accepté. Cela ne me paraissait pas correct de rester sans rien faire. J'avais entendu l'histoire de cet étudiant soudanais de Stanford, menotté et détenu plusieurs heures en arrivant à l'aéroport de San Francisco, le jour même où le décret a été signé. En janvier.
Quel projet vous aviez pour l'avenir avant cette mesure-là ?
Je comptais étudier les sciences politiques ici pendant 4 ans et ensuite enchaîner sur un master de droit. L'idée dans ma tête était de faire ces études pour devenir avocate, spécialiste des droits de l'homme et pour pouvoir revenir travailler au Yémen.
Et maintenant ?
Si je ne peux pas voir mon mari pendant 4 ans, je ne pourrais pas être capable de rester étudier le droit ici.
Vous avez l'air révoltée, déterminée, pas vraiment triste.
You feel sad when you know that it's over.
On se sent triste quand on sait que c'est fini, qu'on a perdu. C'est pourquoi je trouve que le rôle joué par les juges et toutes ces organisations, et même tous les citoyens qui manifestent ou mènent des actions contre le décret, ce rôle est très important. Cela nous montre qu'il existe toujours des contre-pouvoirs dans le système, avant que l'on puisse vraiment dire qu'on a perdu.
Adil Al-Mawafak, cette étudiante yéménite qu'on vient d'entendre, a des amis restés au pays qui rêveraient aussi d'étudier aux États-Unis. En théorie, c'est possible pour le moment, Charlie Dupio.
Oui, c'est possible, mais elle leur déconseille de venir actuellement. Les agents de contrôle de l'immigration font du zèle, même si le travel ban est suspendu. Alors, il y a des avocats qui ont installé des tables dans les aéroports, et puis avec eux, de nombreux étudiants en droit pour défendre bénévolement les étrangers, dont les étudiants. Et certains étudiants qui s'estiment plus privilégiés se sentent la responsabilité d'agir à leur échelle. C'est le cas de Sam Kurland, lui aussi étudiant à Stanford, mais en économie, bientôt diplômé à la fin de l'année. Il nous montre fièrement son campus, Starbucks au milieu des arcades et surtout une boutique Apple, bienvenue au cœur d'une élite en formation en pleine Silicon Valley.
There are about 13,000 bicycles on campus.
On voit près de 13 000 vélos sur le campus. Presque chaque étudiant en possède un. Et de nombreux salariés de l'université aussi.
On voit des fontaines, des palmiers, de la pelouse bien tondue, des buissons.
Le campus est très vaste. On y voit des arbres ramenés de toute la planète, qui ont été replantés ici. Stanford est réputé pour sa formation en informatique. Mais nous sommes aussi fiers de recevoir un enseignement dans d'autres disciplines également. Je vous ai parlé des vélos. À vélo, on est très proche ici de toutes les entreprises tech dont vous avez pu entendre parler. Google, Facebook, Apple, toute la bande. Et d'ailleurs, beaucoup d'étudiants sur ce campus prévoient d'aller travailler chez Facebook dès qu'ils seront diplômés et auront fini leurs études ici.
Comment vous avez vécu l'élection de Donald Trump à la présidence de la République ?
Comme beaucoup, j'ai été surpris. Je pensais qu'Hillary Clinton allait gagner. Et comme beaucoup, je pensais qu'elle allait gagner largement, de très loin. Alors il y a eu quelques jours pendant lesquels nous avons été tous confus ici. On ne savait pas quoi faire ensuite, quoi dire ou quoi penser. Assez rapidement, on a commencé à réaliser qu'il fallait faire quelque chose en tant que personnes qui ont le privilège d'étudier dans un endroit comme celui-ci. C'est bien d'organiser une manifestation et de clamer qu'on n'est pas d'accord avec la situation. Mais c'est autre chose de voir ces élus au Congrès, ces représentants, ces sénateurs voter contre les propositions de l'administration. Le Congrès est très divisé. Les républicains disposent seulement d'une courte majorité. Cela se joue à quelques élus près. Et mon but était d'aider les étudiants, dans un premier temps, à rentrer en contact avec leurs élus, surtout s'il s'agit d'élus républicains, pour les convaincre de voter contre le programme de Trump. Nous voulons cibler les républicains modérés, ceux qui peuvent avoir peur de perdre leur siège au profit de démocrates aux prochaines élections. Ce que j'ai appris lors d'un stage d'été au Congrès à Washington, c'est que l'une des façons les plus efficaces d'atteindre les membres du Congrès, c'est tout simplement de les appeler.
Du coup, vous avez lancé un site internet pour cela ?
Oui, avec l'aide de quelques amis. J'ai lancé un site qui s'appelle calltowin.org. Et ce site vous demande votre code postal, trouve avec cette information qui sont les membres du Congrès qui représentent votre État, donc deux sénateurs et un représentant, avec leur numéro de téléphone. On propose différents textes, avec ce que l'on peut dire pendant l'appel pour des sujets très différents.
Et vous nous montrez comment ça marche ?
Oui, alors je sors mon téléphone. Je vais évoquer un sujet sur lequel j'ai écrit un script cette nuit. Je vais appeler la sénatrice d'Alaska, l'État d'où je viens, Lisa Murkowski.
Merci d'appeler notre bureau de Washington. Nous apprécions vos commentaires. Laissez-nous un message, s'il vous plaît.
Bonjour, je m'appelle Sam et je suis un électeur d'Alaska. J'appelle pour inciter la sénatrice Murkowski à s'opposer à la proposition de Donald Trump qui vise à éliminer la dotation nationale pour les arts et celle pour les humanités. Les artistes jouent un rôle important dans nos communautés en Alaska, surtout pour nos enfants. Et leurs actions ne pourraient pas être possibles sans les dotations nationales. Passez une bonne journée.
C'est fait.
It goes to their office. So in general, it's a staff member.
Cela nous connecte à leur bureau. En général, c'est un membre de l'équipe ou un stagiaire qui décroche le téléphone. Ou alors on tombe sur la messagerie comme maintenant. Et un de ses assistants écoutera ce message plus tard. Un moment très enthousiasmant pour moi quand on a lancé ce site, c'était quand Betsy DeVos était citée pour le poste de secrétaire de l'éducation. Sa nomination était très critiquée. Certains pensaient qu'elle n'était pas assez qualifiée pour être à la tête du département de l'éducation, qu'elle n'avait pas une connaissance suffisante de l'école publique. Mais on a commencé à dire que la sénatrice Lisa Murkowski pourrait faire partie des élus républicains qui pourraient être tentés de voter contre cette nomination. Des milliers et des milliers d'électeurs d'Alaska l'ont alors appelé pour lui dire « C'est vraiment important pour nous que vous votiez non ». Et c'est ce qu'elle a fait. Et la sénatrice républicaine de l'État du Maine aussi. Et toutes les deux ont mentionné le fait qu'elles avaient reçu des milliers d'appels. La nomination de Betsy DeVos a quand même été confirmée. Il n'y avait pas suffisamment de votes contre. Nous n'avons donc pas gagné, mais je pense que nous avons montré l'efficacité de cette méthode.
Est-ce que vous n'avez pas peur que cette initiative reste celle d'une élite qui aurait le temps de s'occuper de ces affaires-là ?
Je pense que si, et nous devrions tous ici avoir cette peur. Comme on peut le voir, rien qu'en se promenant sur le campus, nous sommes dans un endroit unique, éloigné du reste du monde, on a de belles colonnes en grès, et c'est juste une manifestation physique du fait que nous sommes dans une bulle ici. D'ailleurs, certains parlent de la bulle de Stanford. Et j'espère qu'avec notre site Call to Win, nous pourrons aider des gens de milieux différents à s'engager, et qu'il n'y aura pas seulement des étudiants qui appelleront. Avoir 10 000 personnes qui utilisent notre site serait génial. Et je pense qu'on peut y arriver.
Charlie, est-ce que cette méthode pratiquée par les étudiants de Stanford existe à l'échelle du pays pour s'opposer à Donald Trump ?
Oui, on parle du mouvement indivisible. Et l'ironie du sort, c'est qu'ils utilisent une technique qui est inspirée d'une méthode du Tea Party, ce groupe politique hyper conservateur. Et de nombreux groupes ont essaimé à travers tout le pays et pas seulement sur le campus.
Restez avec nous les voisins. Suite du reportage États-Unis, les campus en résistance, juste après le flash.
7 milliards de voisins, c'est sur RFI.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. Vous écoutez 7 milliards de voisins, suite de l'enquête États-Unis, les campus en résistance. Un reportage sur 5 campus dans 3 États américains, Californie, Texas, Illinois. Avec vous, Cerise Maréchaux, Charlie Dupio. Des universités américaines inquiètes, en colère depuis l'élection de Donald Trump. En première partie d'émission, on évoquait les lois anti-immigration, indispensables à l'excellence des universités américaines. Mais il y a aussi des menaces concernant les financements des universités d'État. Et plus globalement, il y a ce vent de démagogie, de mépris du savoir, de la connaissance, distillé par le nouveau président au fil de ses messages lapidaires sur Twitter, faisant passer les universités un peu comme des bulles éloignées des réalités du pays. Reste à savoir aujourd'hui qui est le plus éloigné des réalités du monde. Cerise Maréchaux, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que Donald Trump, c'est aussi un homme qui a arnaqué des milliers d'étudiants avec sa Trump University.
Oui, c'était des formations bidons, mais très chères, pour devenir un businessman dans l'immobilier. Donald Trump a d'ailleurs été poursuivi pour fraude et techniques de vente mensongères et prédatrices. Cela s'est soldé après son élection par un gros chèque aux étudiants qui avaient porté plainte.
Alors maintenant qu'il est président, Donald Trump est encore moins populaire chez les étudiants. Charlie Dupio, vous vous êtes rendu à Berkeley, près de San Francisco, où la fronde s'organise.
Oui, une fronde menée notamment par David McCleary, à la tête d'un syndicat qui regroupe 16 000 étudiants travaillant sur les campus de toute la Californie. Il est lui-même titulaire d'un doctorat en biologie moléculaire.
Alors nous sommes ici à l'université de Berkeley, au café Free Speech, nommé d'après le Free Speech Movement, le mouvement pour la liberté d'expression qui a eu lieu dans les années 60 et qui protestait contre la guerre du Vietnam. Un activiste de ce mouvement, Mario Savio, a prononcé un discours célèbre sur ce campus, quelque chose comme « Quand l'action d'un gouvernement devient tellement odieuse que vous ne pouvez plus la supporter, il faut jeter son corps sur les engrenages de la machine et la faire s'arrêter. »
Bien avant de devenir président des États-Unis, Ronald Reagan a été élu gouverneur de Californie en promettant notamment de nettoyer Berkeley, ça c'était en 1966, à cause des manifestations.
Oui, et si vous marchez à travers le campus, vous remarquerez qu'un grand nombre de doubles portes n'ont pas de poignée sur l'une des deux portes. Parce que pendant les années 60, ils ont bloqué la porte du bâtiment où se trouvait le bureau du président de l'université. Ils l'ont fermé avec des chaînes à l'extérieur. Donc vous voyez, nous avons un beau passé de résistance ici à Berkeley, et nous essayons d'être à la hauteur. Nous voulons faire tout ce qui est de notre ressort pour nous opposer à Trump et nous rendre ingouvernables. Récemment, il y a Milo Yiannopoulos qui est venu sur le campus, invité par un groupe d'étudiants républicains. C'est un agitateur d'extrême droite. Il écrivait alors pour le site Breitbart, une publication en ligne ici aux États-Unis, dont on dit qu'elle est la publication officielle de l'alt-right, ce mouvement nationaliste blanc qui se répand aux États-Unis.
Et qu'on accuse de propager des fake news, des fausses informations.
Yes. Oui, et il avait aussi participé à une campagne pour empêcher les universités et les villes d'être des sanctuaires, des endroits où on protégeait les étudiants sans papier. Nous étions inquiets qu'ils viennent sur le campus et qu'ils exposent certains étudiants sans papier, qu'ils dévoilent leur nom ou montrent leurs photos, comme ils l'avaient fait récemment pour une étudiante transsexuelle dans une école du Wisconsin. Et nous avons organisé un rassemblement. Je pense qu'il y avait bien 4000 personnes qui l'ont attendu dehors, devant le bâtiment où il devait s'exprimer, pour l'empêcher de prendre la parole. Il y a eu quelques dégâts matériels qui ont accompagné ce rassemblement. L'administration du campus s'était démenée pour défendre le droit de cet homme à s'exprimer sur le campus en faisant référence au Free Speech Movement.
C'est tout un débat sur la liberté d'expression.
Oui, enfin, on ne demandait pas au gouvernement de venir l'arrêter. On disait simplement que l'on ne voulait pas que nos frais de scolarité soient dépensés pour lui donner une plateforme.
Et ensuite, un peu comme Ronald Reagan en 66, Donald Trump s'est exprimé contre Berkeley.
Oui, après que Milo ait été chassé du campus sans avoir pu prendre la parole, Trump a réagi sur son compte Twitter, l'endroit où il mène toute sa politique. Et il a sous-entendu que Berkeley pourrait perdre son financement fédéral pour ne pas avoir laissé Milo parler. Mais il y a une autre menace directe plus inquiétante, formulée par son procureur général, celle de couper les fonds fédéraux d'universités et de villes qui se déclareraient sanctuaires pour les sans-papiers, c'est-à-dire qui refuseraient de transmettre des documents permettant d'identifier les sans-papiers. Ces menaces, je dirais, sont les plus probables. Si l'université a officiellement, comme c'est le cas pour la nôtre, déclaré qu'elle serait sanctuaire, qu'elle ne collaborerait pas avec les services de l'immigration et des douanes, je dirais que c'est en cela que réside la vraie menace. Là, il y a vraiment un risque que nous perdions notre financement fédéral, de par par notre position. Et je crois que le rôle de notre syndicat, et je pense que c'est aussi la position de toutes les associations sur le campus, c'est de rappeler l'université à ses promesses, même si elle risque d'y perdre une partie de son budget.
Et Charlie Dupio, quelle est la réalité de cette menace sur le budget des universités américaines frondeuses ?
Alors en fait, la Maison-Blanche ne peut pas directement couper les vivres des universités publiques, car ce sont les États qui les financent, mais un gouverneur néo-conservateur dans la ligne de Donald Trump, qui aurait envie de sanctionner une fac progressiste ou bien une fac rebelle politiquement, peut le faire en retirant des fonds aux villes, ou plutôt aux comtés concernés, qui eux-mêmes financent les universités d'État.
Cerise.
Or, c'est ce que vient de faire le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott. Il a rendu illégal le concept d'université et de ville sanctuaire, sous peine de sanctions financières.
Donc, cette menace de sanctions financières, elle existe. L'argent est clairement une arme brandie par Donald Trump contre les universités.
Oui, et surtout, la conséquence la plus concrète pour l'instant à l'échelle de tout le pays, ce sont des coupes drastiques dans des fonds de subvention pour les sciences humaines et la culture au sens large. Sont concernés en premier lieu le National Endowment for the Humanities, le Fonds national pour les humanités et son équivalent pour les arts. À l'Université de Chicago, un prestigieux campus privé, j'ai rencontré Faith Hillis, professeure assistante d'histoire spécialiste de la Russie, et je lui ai demandé quel serait l'impact de telles coupes pour l'enseignement en général et dans son département en particulier. Ces institutions existent depuis les années 60. Ce sont des bourses qui permettent aux professeurs de prendre un congé sabbatique pour écrire leurs livres. Elles sont cruciales pour transmettre la recherche au grand public. Le documentariste Ken Burns a ainsi pu réaliser sa grande série de films sur la guerre civile, sans oublier l'exposition sur Toutankhamon dans les années 70, un immense succès. Et ces fonds nationaux pour les arts et les humanités représentent une infime partie du budget fédéral. Le coût de ces programmes, qui aident des milliers de personnes et créent une immense valeur ajoutée culturelle, est moins élevé que d'assurer pendant un an la sécurité de Melania Trump dans la Trump Tower de New York où elle habite. En ce qui concerne mon département, nous qui étudions la Russie, le monde arabe et d'autres régions considérées comme stratégiquement importantes pour la sécurité intérieure des États-Unis, à ce jour, nous recevons une enveloppe conséquente du gouvernement. Cela finance des programmes de langues étrangères et permet aux étudiants de voyager pour aller étudier ces régions du monde. Mais ces programmes sont également dans le viseur des coupes budgétaires. Pourtant, c'est grâce à ces programmes que nous formons la future génération d'experts en relations extérieures, d'experts de la Russie ou du Moyen-Orient. Supprimer ces budgets, c'est vraiment vicieux et une vision à court terme.
Si ces coupes budgétaires ont lieu, vous, dans votre département, par exemple, des programmes vont complètement disparaître ?
Oui, certains de ces programmes vont complètement disparaître.
Professeur Faith Hillis, les historiens américains semblent également s'inquiéter de la vision de l'histoire américaine que Donald Trump semble avoir. Quelle est cette vision de l'histoire américaine et en quoi est-elle différente de l'histoire américaine enseignée dans les universités ?
Trump's campaign slogan was Make America Great Again.
Le slogan de Trump, c'était « Rendre sa grandeur à l'Amérique ». Mais nous savons qu'il parle d'une Amérique des années 50, une Amérique majoritairement blanche, avec des minorités invisibles. Les années 50, c'est aussi une période de ségrégation et de grande violence contre les Afro-Américains. On ne voit pas vraiment en quoi l'Amérique de ces années-là était si glorieuse. À l'exception des Amérindiens, nous sommes tous issus d'immigrés. Le fantasme d'une Amérique ethniquement pure, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas qui nous sommes.
Avez-vous observé ou entendu des aberrations historiques dans certains discours de Donald Trump ou de membres de son cabinet?
Oui, j'ai plusieurs exemples. Le premier, c'est le cas de Ben Carson, le secrétaire d'État au logement et à l'urbanisme. Il est l'unique noir parmi les membres du cabinet de Trump. Carson a comparé ses ancêtres, des esclaves venus d'Afrique, à des immigrants qui auraient réalisé le rêve américain, surmonté les difficultés, puis grimpé l'échelle sociale. Ça a offusqué de nombreux historiens, parce que bien sûr, les esclaves n'étaient pas des immigrants. Ils ne sont pas venus de leur plein gré en recherche d'une vie meilleure. D'ailleurs, ils n'ont pas eu une vie meilleure. Leur calvaire a continué pendant des centaines d'années. Donc oui, ça a mis en colère de nombreux historiens, parce qu'il s'agit d'interprétations fallacieuses et mal intentionnées, des faits et de la réalité.
Vous, en tant que corps d'historien, de professeur d'histoire,
Quelle est votre responsabilité face à cette administration Trump?
Notre rôle dans les universités américaines, notamment dans l'enseignement de l'histoire, est de transmettre à nos étudiants l'esprit critique, de déconstruire les mythes véhiculés par Trump et qui pèsent de plus en plus. Nous avons une responsabilité politique très importante parce que cette administration s'attaque au savoir, à l'expertise. Ils réfutent de façon flagrante ce que disent les experts, par exemple sur le réchauffement climatique et plein d'autres choses. Nous, en tant qu'université, nous devons communiquer au public ce que nous savons et pourquoi c'est important.
Des campus sous tension, donc, à cause des lois anti-immigration, des campus sous tension aussi à cause des menaces de coupes budgétaires, et maintenant des campus sous tension menacés comme temple de la connaissance, du savoir. Ça fait quand même beaucoup, Cerise Maréchaux.
Oui, et Faith Hillis incarne cette colère des historiens, mais une colère raisonnée, argumentée, nourrie de l'étude minutieuse des faits, de débats passionnés, mais très sérieux. Par exemple, le régime de Trump est-il fasciste, ou bien s'agit-il seulement, entre guillemets, d'une dérive populiste autoritaire? Ça, c'est pour les paroles. Côté action, de nombreux historiens comme Faith Hillis militent au sein de l'Association américaine d'histoire, font du lobbying pour lutter contre les coupes budgétaires. Et ça vaut le coup, car elles n'ont pas encore été votées par le Congrès.
Alors, on a parlé des historiens et Cerise, l'autre grand corps d'enseignants-chercheurs très mobilisés contre Trump, choqués même par sa présidence et ses discours, ce sont les scientifiques.
Et on va comprendre les raisons de leur colère. Le 22 avril dernier, ils étaient rassemblés lors d'une grande marche pour la science, un événement mondial d'ailleurs, pas qu'aux États-Unis. Moi, c'est à Austin, au Texas, que j'ai rencontré Ron Weatherington avec sa barbe blanche de vieux sage. Il est professeur d'anthropologie à la Southern Methodist University de Dallas. Vous allez marcher aujourd'hui?
Yes, I'm going to march today.
Oui, je vais marcher aujourd'hui, pour la science, contre les coupes des subventions à la Fondation nationale pour la science, l'Institut national de santé, etc., pour réagir contre le déni de la science. Trump a dit qu'à ses yeux, il n'est pas impossible que certains vaccins soient un facteur d'autisme chez l'enfant. Et l'exemple le plus connu, c'est sa déclaration selon laquelle le réchauffement climatique est en fait un canular contre les États-Unis fomenté par la Chine. Tellement absurde que c'est devenu une blague.
Néanmoins, Donald Trump a nommé un climato-sceptique, Scott Pruitt, à la tête de l'EPA, l'Agence fédérale de protection de l'environnement.
Il réfute toute preuve scientifique qui n'arrange pas ses petites affaires.
Quels sont les défis posés par l'administration Trump dans votre domaine de recherche et d'enseignement?
Ses efforts pour réduire à peau de chagrin les fonds pour la recherche sur l'évolution. Moi, j'enseigne la théorie de l'évolution et la sélection naturelle. C'est le fondement de toutes les sciences biologiques. Et cela fait consensus à 99% dans la communauté scientifique, grâce à des preuves, des expériences, etc. C'est très dangereux qu'une administration, à la tête du monde libre, nie ainsi ouvertement la théorie de l'évolution, malgré toutes les preuves scientifiques. Cela envoie le message que la science, après tout, c'est juste une affaire d'opinion. Mon inquiétude principale, c'est l'enseignement de la théorie de l'évolution au lycée. C'est ma raison de manifester aujourd'hui. Je me suis officiellement exprimé contre le contenu des manuels scolaires de biologie, dont certains passages présentaient la théorie de l'évolution comme douteuse, pas totalement valide, encourageant les élèves à étudier une autre théorie, mais que nous savons non scientifique, c'est-à-dire le créationnisme, la création du monde par Dieu. J'ai donc fait partie d'un comité de 10 personnes chargées, pendant plusieurs mois, d'examiner, de revoir, d'unifier les normes des manuels scolaires. On a recommandé d'éliminer les passages problématiques ou ouverts au créationnisme.
Ce sont des manuels scolaires qui, à destination des élèves du secondaire, collège, lycée, mais les personnes qui doivent les relire et les valider sont des professeurs de l'université.
They were both teachers and professors from universities.
Les deux, les enseignants du secondaire et des professeurs d'université. Nous, profs du supérieur, avons un rôle à jouer car les enseignants du collège et du lycée ne sont pas des scientifiques. Ce sont d'excellents transmetteurs, mais ils ne sont pas chercheurs. Nous, les profs de fac, partageons les résultats de notre recherche avec eux et avec les comités chargés de revoir les programmes et les manuels.
And yesterday, we remove the final vestiges.
Et hier, nous nous sommes enfin débarrassés des derniers vestiges qui gardaient la porte ouverte au créationnisme dans les manuels de biologie. Une vraie victoire pour la science.
Ça, c'est un bon signe pour la résistance des scientifiques.
It is a great sign.
Oui, un très bon signe. Cela va encourager la défense de la science à aller encore plus loin. Les enseignants et professeurs vont se sentir plus libres, mieux respectés, mieux considérés par le Parlement et le département de l'éducation. On n'est pas prêt à céder cette liberté sans se battre. Ça me regonfle d'espoir, savoir que parfois la résistance aboutit à quelque chose.
Et certains professeurs ont même décidé de s'engager en politique, Charlie Dupio.
Oui, comme Michael Hazen, professeur de biologie moléculaire et cellulaire depuis 17 ans à l'université de Berkeley. Sa candidature a surpris son entourage. Il est révolté par Trump et son manque de considération pour la science avec un grand S. Et il a donc décidé de délaisser ses microscopes et ses mouches qui pourtant l'attendent dans son laboratoire au cœur de Berkeley.
This is our lab. We study fruit flies. Maybe I'll take you to see the flies first.
C'est notre laboratoire. Nous étudions les mouches ici. Je veux d'abord vous les montrer. Là, c'est notre pièce spéciale pour les mouches. Elles vivent à une température plutôt froide. Ce sont des mouches de fruits dont on étudie la génétique depuis plus de 100 ans. Vous savez, mon slogan de campagne a été inspiré par la devise française « Liberté, égalité, fraternité ». Mais je l'ai un peu modifié et maintenant ça dit « Liberté, égalité, réalité ». La réalité, c'est ce que je compte vraiment défendre pendant ma campagne. Car comme beaucoup d'autres, je me demande, et j'ai beaucoup de mal à l'expliquer, comment on en est arrivé à lire un homme politique tellement détaché des réalités qu'il ne reconnaît même pas la réalité des problèmes auxquels nous faisons face dans notre pays et dans le monde. Il n'essaie pas de les résoudre puisqu'il n'admet pas qu'ils existent. Et le problème principal qu'il nie, c'est le changement climatique. Je pense que c'est ce qui dérange le plus tous les scientifiques que je connais par rapport à notre président actuel. On nous dit toujours que science et politique ne devraient pas interagir l'une avec l'autre, que le travail des scientifiques est de décrire le monde, et celui des politiciens, à partir des connaissances découvertes par les scientifiques, de choisir quelle politique mener en conséquence. Mais quand certains hommes politiques refusent d'accepter la réalité telle que nous la décrivons, j'ai le sentiment, comme d'autres chercheurs, qu'il est grand temps que les membres de la communauté scientifique s'engagent plus en politique.
Vous-même, vous vous engagez, vous vous lancez en politique, vous qui n'en avez jamais fait, et vous vous présentez au siège de sénateur pour les élections de 2018, les élections de mi-mandat. Alors pourquoi ? Pourquoi vous lancez dans la politique ?
Très peu de scientifiques se sont proposés en disant « Ok, je le fais, je me présente ». Alors j'y suis allé. Et je pense que la victoire est possible. Si cette dernière élection américaine nous a bien appris quelque chose, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir eu le parcours d'un politicien classique pour se faire élire. Mais surtout, j'aimerais bien servir d'exemple pour d'autres scientifiques afin de leur montrer « Voilà à quoi ça peut ressembler si vous aussi vous vous présentez ». Cela peut donner un exemple à travers le pays et même à travers le monde.
L'une des sénatrices démocrates, Kamala Harris, a dû rassembler 15 millions de dollars pour financer sa campagne et puis pour remporter son siège. Comment vous comptez vous y prendre pour rassembler tout l'argent qu'il faut pour mener une campagne ?
La Californie a cette particularité d'avoir une primaire ouverte ici. Cette première étape, la primaire, est prévue en juin 2018.
Et vous êtes indépendant.
Oui, je me présente en indépendant. Mon objectif est d'abord de terminer second et de faire partie des deux gagnants de la primaire pour être sélectionné pour l'élection générale. Pour cela, je pense qu'il me faut lever près de 5 millions de dollars. Cela peut sembler beaucoup, mais souvenez-vous que la Californie est un État très vaste, avec un grand nombre d'habitants très riches qui sont intéressés par toutes les façons innovantes de faire de la politique sur leur territoire. Et puis, je me débrouille bien sur les réseaux sociaux, et je suis raisonnablement connu sur les campus d'université.
Et c'est un pari un peu fou, quand même, vous qui n'êtes pas du tout connu en dehors peut-être du campus de Berkeley.
Vous savez, la plupart des bonnes actions semblent toujours un peu folles au début. Aujourd'hui, vous pouvez être un parfait inconnu et en 15 minutes devenir une star de YouTube. On verra, on va reconquérir notre pays.
Alors, on voit bien que les étudiants, les professeurs s'engagent, trouvent une manière d'agir. Est-ce qu'on peut parler, Cerise Maréchaux, d'un mouvement national fédéré autour de la défense de la connaissance maintenant ?
C'est pas facile de répondre car Donald Trump est président depuis moins de 6 mois, on manque de recul et les États-Unis restent ce pays immense, hyper contrasté. Mais on peut écouter l'analyse de Jean-Thomas Tremblay, c'est un doctorant québécois à l'université de Chicago, prestigieuse université privée mais pas franchement rebelle. C'est là qu'est née d'ailleurs l'école de pensée économique libérale, la fameuse école de Chicago.
Ouais, présentement on est dans un café qui est géré par des étudiants ici sur le campus de l'université de Chicago. C'est important de dire que c'est un campus qui n'est pas reconnu comme étant un des campus très politisés aux États-Unis. On n'est pas à Berkeley, on n'est pas à même NYU ou CUNY à New York. Donc, c'est un campus qui était reconnu comme étant très amorphe au niveau politique. Puis je pense que ça a changé beaucoup. Je pense que les étudiants et les professeurs aussi se sont rendus compte qu'il y avait de l'activisme qui se faisait sur le campus. Puis cet activisme-là est devenu plus visible, puis plus organisé. Donc il y a des étudiants qui ont déjà créé des structures pour réagir aux inégalités sociales. Puis ces structures-là sont devenues de plus en plus importantes. Puis je pense qu'il y a plus d'étudiants qui y mettent du temps. Il y a eu un changement d'atmosphère, c'est sûr, parce que oui, une abondance d'événements. Il y a un besoin et à travers ces événements-là, il y a une communauté qui se crée puis qui commence à se reconnaître parce que c'est souvent les mêmes visages qu'on voit à ces événements. Donc c'est un moment de grande réflexion, je pense, puis c'est un moment où quelques arguments en ce sens où les étudiants américains ne sont pas politisés en ce moment est vraiment pas prouvé.
Tu as entendu que les étudiants ne sont pas politisés?
Mais je pense que c'est le cliché sur la génération qu'on appelle les millennials aux États-Unis.
La génération Y,
ouais.
Les jeunes qui ont entre 20 et 30 ans.
Oui, exactement. Donc le cliché, c'est que cette génération-là n'est pas politisée. Mais je pense qu'il faut faire une différence entre l'apathie puis une espèce de surdose d'émotion qui vient d'une surdose d'information. Les étudiants, puis je m'inclurai là-dedans, sont extrêmement sensibles à ce qui se passe en ce moment. Puis c'est sûr qu'il y a une espèce de paralysie parce que les décisions au niveau exécutif se passent tellement rapidement, puis il y a tellement une abondance d'informations en ce moment. Mais c'est pas... Ça, c'est différent d'être apolitique.
Est-ce que néanmoins, Jean-Thomas Tremblay, tu remarques dans cette université ou plus largement ailleurs aux États-Unis une résistance spécifique au monde universitaire qui s'organise et qui peut-être peut avoir une efficacité?
Oui, ben je sais pas. Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'un mouvement comme l'activisme des campus des années 60 pourrait renaître des cendres du libéralisme américain de l'époque d'Obama? Peut-être. Je pense que ça va prendre un peu plus de temps pour voir si une solidarité à travers les campus se crée. Parce qu'en ce moment, je dirais que c'est de la gestion de crise qui s'organise sur les campus.
Plus qu'une résistance universitaire?
Ouais, je pense pas qu'on peut parler d'un mouvement national encore. Mais pour moi, venant du Québec, je suis habitué aux grèves universitaires, puis c'est quelque chose qui est dans la culture québécoise, puis c'est quelque chose qui est dans la culture française, c'est certain. C'est pas quelque chose qui est dans la culture américaine du tout. Donc, je pense qu'il y a plusieurs étapes à franchir avant qu'on puisse parler d'un mouvement de résistance.
Certes, pas de grande grève étudiante nationale pour le moment, moins de manifestations qu'au lendemain de l'élection d'ailleurs, mais les cerveaux, eux, sont tout de même en ébullition, Cerise.
Oui, chaque jour sur les campus, il y a des cours et des ateliers spécifiques pour analyser la nouvelle donne politique. À l'Université publique de l'Illinois, j'ai assisté d'ailleurs à une conférence sur les droits des personnes homosexuelles et transgenres sous la présidence Trump et à un cours appelé « Qu'est-ce que le Trumpisme ?». J'y ai rencontré Grégory Lucero, 32 ans, auditeur libre.
Chaque jour, il y a au moins un atelier ou une conférence, que ce soit sur les attaques de Trump envers les femmes ou sur la nécessité du féminisme, ou alors un cours pour comprendre le Trumpisme où j'étais à l'instant. Partout dans le pays, on voit les enseignants d'ordinaire plutôt apolitiques qui se mobilisent pour la cause de l'éducation, pour leur propre cause et celle du peuple.
Grégory Lucero, savez-vous si des professeurs ici à l'Université de l'Illinois à Chicago ont adapté leurs cours à la présidence de Donald Trump?
Moi, je ne suis qu'un simple employé de cafétéria. Mais oui, absolument. Les profs de sociologie, de sciences politiques, d'économie ou d'anthropologie, ils ont changé significativement le contenu de leurs cours. Et ils m'en parlent. On discute quand je leur sers leur sandwich ou leur salade. Et eux, les profs, ils sont contents de me parler de leur travail, de leur classe. Maintenant, quand ils abordent les institutions politiques en cours, ils ne s'appuient pas sur un débat historique et théorique abstrait. Ils questionnent directement. Qu'est-ce que Trump implique pour ses institutions? Qu'est-ce qu'il implique pour la sociologie, pour l'urbanisme? Qu'est-ce que son élection dit de notre culture? Oui, les profs changent leur programme, proposent des lectures pour s'adapter à la situation, pour que leurs élèves comprennent Trump en tant que phénomène d'exception, mais une exception bien dangereuse. Je reconnais que l'université est un univers privilégié. Je ne dirais pas que c'est un microcosme, car justement, l'université, à mes yeux, n'est pas aussi variée et donc assez représentative de la société américaine, mais elle reste un univers précieux. Je crois fermement que c'est une base utile de résistance, au même titre qu'une église baptiste noire ou un atelier syndical. L'université est un des sites clés de la résistance contre Trump et son agenda.
Les universités, avec les lois sur l'immigration, avec le déni de la connaissance et les menaces de coupes budgétaires, vont-elles continuer à attirer les cerveaux du monde entier? Eh bien, l'avenir le dira. En tout cas, la meilleure arme des universités américaines pourrait demeurer finalement leur raison d'être, c'est-à-dire la culture du débat et la défense de la diversité, tout ce qui fait leur identité. Trump est au pouvoir pour encore 3 ans et demi, mais la mission des universités américaines s'inscrit, elle, dans le plus long terme. Voilà, c'était un reportage signé Cerise Maréchaux, Charlie Dupiau, à la réalisation Hugo Violas. Vous pouvez bien sûr réécouter toutes les émissions sur RFI.fr à la page des 7 milliards de voisins. Lundi, enquête sur le concentré de tomates dans toutes nos assiettes, mais aussi un business mondial relié à la mafia et qui fait décidément bien tâche.
You've sown from the